Bonjour, bienvenue dans votre émission Tendance Confidence, Tendance Littérature, aujourd'hui avec notre invité Alexis Génie. Alexis Génie, avec vous, quelques mots peut-être de présentation sur votre passion, qui est bien sûr l'écriture.
J'ai fait des études de sciences naturelles, chose qui est extraordinaire parce que c'est une sorte de découverte du monde tel qu'il est, du monde qui nous entoure, des animaux, des plantes, des cailloux, tout ça, c'est vraiment passionnant. Donc, avec ça, j'ai été enseignant, j'ai été professeur de sciences naturelles dans un lycée pendant une vingtaine d'années. J'ai beaucoup aimé ce contact permanent avec voilà, des jeunes gens entre 15 et 18 ans qui sont totalement impitoyables, qui font que, eh ben, il faut réussir, sinon on se fait manger par sa classe.
Tendance Confidence propose sur Tendance Ouest beaucoup de rencontres. Nous sommes nés d'une rencontre.
Absolument. Oui, bien sûr. Et nous grandissons dans des rencontres. Il ne se fait rien d'humain sans rencontre. Finalement, les rencontres, c'est probablement l'événement essentiel. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sociaux. Sans rencontre, nous ne serions rien. Voilà, un homme seul n'existe pas.
D'ailleurs, c'est un beau lieu de rencontre que celui de l'écriture, lorsque l'auteur, l'écrivain, après avoir terminé son livre, ce même livre se retrouve entre les mains du lecteur. Est-ce que vous êtes en manque lorsque vous n'écrivez pas?
Absolument, quand je ne lis pas et que je n'écris pas, je suis en manque avec les vrais symptômes du manque, c'est-à-dire irritabilité, tension, agressivité. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est totalement indispensable. Et ça, depuis que je sais lire, je crois que le jour où on m'a appris à lire, on m'a lancé dans quelque chose d'énorme. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Déjà enfant, j'étais parmi mes copains, j'étais celui qui lisait, voilà, celui qui n'avait pas la télévision et qui lisait. Voilà, la chose écrite a toujours été une passion profonde.
Est-ce que le silence est une angoisse pour vous ou une forme de libération ou encore une fois comme une respiration?
C'est-à-dire que le problème de l'écriture ou de la parole, c'est qu'elle se sclérose vite et il faut replonger régulièrement dans le silence pour lui redonner un aspect neuf, pour lui redonner sa vitalité. Mais le silence, c'est quelque chose qu'il ne faut pas craindre, puisque c'est chargé de toutes les paroles possibles potentiellement. Le silence est une grande chose qui finalement qui rénove. Et c'est peut-être quelque chose qui se perd un petit peu dans un monde très très bruyant où on a mille façons de faire du bruit et d'entendre du bruit de toutes sortes, où on sonorise tout, on musicalise tout. Un petit arrêt de tous ces objets-là fait le plus grand bien.
Dans votre livre L'art français de la guerre, qui a reçu le Goncourt en 2011, vous écrivez: On meurt d'engorgement, se sent trop épais, ne bouge plus. La France est précisément cette façon de mourir. Pas très optimiste.
Il y a des tas de choses superbes et magnifiques et douces en France, mais voilà, je suis romancier, donc je mets en scène quelque chose dans un certain but. Là, ce que je voulais, c'était mettre en scène cette violence contemporaine en France qui est terrible et qu'il faut voir pour essayer de la résoudre.
Est-ce que c'est la fragilité de la vie rencontrée aussi dans ces différents conflits, qu'ils soient l'occasion d'une guerre entre États ou d'un conflit familial ou la lutte contre la maladie? Est-ce que c'est tout cela qui, en fin de compte, vous a fait accoucher de ce livre, son visage et le tien?
Je pense que ce livre correspond à une préoccupation qui est bien plus ancienne que celle du roman, c'est-à-dire une sorte de souci du spirituel que j'ai depuis 20 ou 30 ans.
Vous dites souci, hein.
Alors souci, oui, c'est une sorte de voilà de sensibilité, sensibilité au spirituel. Et par rapport à la fragilité de la vie, c'est pas tellement la fragilité de la vie qui me frappe, parce que je pense que la vie par principe est fragile. C'est plutôt sa persistance qui est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est sa capacité de tout surmonter. Et par rapport à la guerre dont vous avez parlé, eh bien, ce qui est fascinant, c'est pas tant la fragilité que sa persistance. C'est-à-dire qu'en toutes conditions, même les plus dures et les plus violentes, la vie continue, la vie reprend, la vie rebondit. Et ça, c'est étonnant. Bah, c'est exactement ce qui correspond à la repousse d'herbes et de petits arbustes dans des zones dévastées par une éruption volcanique ou des grands cataclysmes. Finalement, dans le domaine des zones ravagées par les catastrophes sociales comme les guerres, bah, la vie persiste.
La vie persiste, mais pensez-vous que la mort soit aussi un manque de savoir-vivre au quotidien ?
Ah, ça c'est presque un jeu de mots. Mais la mort, ben, elle est là. C'est une sorte d'intempérie. Mais c'est quelque chose qui me, qui est toujours présent, mais qui m'angoisse pas vraiment parce que j'y pense peu. La vie est importante, la vie est essentielle. La mort, quand j'y pense, j'y suis pas, et quand j'y serai, je ne pourrai pas y penser. Donc, elle me concerne pas.
Votre livre intitulé « Son visage et le tien » paru chez Albin Michel est un essai sur la spiritualité. Alexis Génie, de quelle spiritualité vous sentez-vous le plus proche ?
Bon, je pense qu'il y a mille réponses à cette question. La mienne de réponse est plutôt cette tradition catholique, cette religion catholique correspond à un ressenti, à un éprouvé, à quelque chose que je sens qui est en fait ma propre vitalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne vie ? Qu'est-ce qui fait que je continue à vivre et à bouger, à parler, à penser, qu'est-ce qui m'anime ? Et ce souci du spirituel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est-à-dire, je suis vivant, même si je ne fais rien et je ne dis rien et je ne bouge pas, je suis toujours vivant, il y a quelque chose en moi qui me donne vie. Et ce quelque chose qui paraît indestructible, qui est toujours là, finalement, comment peut-on le saisir, le penser, le sentir et finalement, ce quelque chose qui est la vie en moi, on peut appeler ça Dieu. En fait, c'est une présence en soi et que l'on peut pas vraiment nommer, qu'on cherche pas à nommer, mais qui donne vie. Et cette tradition chrétienne permet de vivre et de penser cette chose qui me donne vie.
Cette chose qui donne vie, ce quelque chose, ce quelqu'un.
En effet, ça pourrait être plus quelqu'un, mais alors c'est très difficile à penser. Bon, le Dieu chrétien est un Dieu personnel qui vous parle à vous. Bon, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la personne et quelque chose qui est de l'ordre de la parole, c'est sûr. Mais ce n'est pas une apparition qui vous dit quelque chose. C'est beaucoup plus profond que ça ou général que ça. Je pense qu'en effet que le Dieu chrétien est un Dieu de parole.
Vous avez confié à Anne-Laure Filleul pour le journal La Vie, vous avez fait cet encadré central qui s'appelle L'Essentiel, que Dieu est la jouissance d'un plein que vous ressentez. C'est dans la continuité de ce que vous venez de dire.
Tout à fait, c'est-à-dire que cette vie qui m'anime et qui anime chacun des êtres humains sur cette terre est animé de vie, cette vie finalement me remplit. Et c'est un bonheur que d'être dans cette présence-là, dans cette présence de la vie en soi. Et cette vie est plus grande que moi, c'est pas moi. C'est autre chose, ça me dépasse, me déborde et me relie aux autres. Donc je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que moi. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose de l'ordre du divin.
Vous composez un hymne avec ce livre, un hymne à nos cinq sens. Sentir, c'est alors croire et c'est aimer. C'est encore saisir l'intensité d'une présence qui réside entre deux visages lorsque l'amour abolit toute distance et révèle l'éternité. Tout un programme, Alexis Génie. Pourquoi ce titre, son visage et le tien, avec cette conjonction de coordination ET et non pas l'auxiliaire EST ?
Alors ça, c'était une sorte d'image que j'ai un peu construite. Je m'étais posé un peu la question de quel était le visage du Christ. Est-ce que c'est une question qu'on peut poser, puisque dans les évangiles, le Christ n'est jamais décrit, on ne connaît pas son visage. Pourtant, c'est un homme, pleinement homme, pleinement Dieu. Il était là, il était présent, donc il avait ce visage. À quoi ça pouvait ressembler ? Et j'étais fasciné par cette figure qu'on peut voir sur le suaire de Turin. J'avais l'impression que c'était issu de la superposition de tas de visages, sans que ce soit fusionné, puisqu'il y a quand même le plus proche et le plus lointain, mais il y a un lien entre tous.
Donc votre visage et le mien, et toutes les personnes dont on choisit de se faire proche, qu'on appelle le prochain, composent justement cette humanité dont nous faisons partie.
Tout à fait, et ça c'est très très important de faire partie de l'humanité. Je pense que c'est quelque chose de fondamental dans le christianisme. Il y a un idéal de fraternité universelle qui est très très fort.
Et que ce que l'on vit de bien dans l'instant, comme instant d'émerveillement, résonne quelque part dans l'éternité.
Alors c'est des moments qui peuvent avoir mille raisons différentes. Hein. Ça peut être des moments amicaux, amoureux, des moments de contemplation, des moments d'émotion esthétique, des moments de bonheur physique, intellectuel. Enfin bon, il y a tous ces moments où on est pleinement présent, où il y a une pleine présence. Ben, ce sont des moments pour moi qui sont des fenêtres sur l'éternité. C'est pour ça que dans ce livre, je fais différents chapitres qui parlent des différents sens, et tous ces sens qui permettent d'accéder au spirituel, au divin.
Est-ce que selon vous, écrire à propos d'une émotion, ce que vous avez entendu, vous le couchez sur une page blanche, est-ce que c'est selon vous, Alexis Gianni, l'enfermer dans le temps, ou est-ce que c'est lui donner une nouvelle liberté, une façon d'exister ?
Alors, si on écrit mal, c'est l'enfermer. Le but, c'est d'écrire bien, c'est-à-dire de lui redonner encore plus d'intensité, de lui donner plus de liberté et de ne pas l'enfermer. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'angoisse profondément, c'est la fin de la parole. Qu'on a fait le tour du problème et que les choses sont comme ça, point terminé, il n'y a plus à en parler. Et ça me donne une sorte d'angoisse physique. Il faut que la parole continue. Interrompre la parole, pour moi, c'est le crime absolu. Donc du coup, écrire, c'est justement essayer de ne pas fixer, de laisser la liberté à ce qu'on décrit, de continuer à se développer. Et l'art d'écrire, c'est ça. Autrement, c'est de la mauvaise pratique.
À propos du verbe entendre, et j'ai retenu page 80, une citation que vous empruntez aux Carmélites. Le silence agrandit notre espace intérieur et permet d'accueillir la présence de Dieu qui murmure. Une règle pour le moins difficile à observer, dans un monde de bruit que nous pouvons connaître ici ou ailleurs, ou quand le bruit est aussi intérieur à nous-mêmes.
Absolument. C'est apprivoiser le silence. Le silence qui n'est pas rien, qui n'est pas la mort, qui n'est pas l'ennui, qui est juste la possibilité d'entendre. Et ces carmélites, vivent dans un certain silence, dans un minimum de paroles, elles ont aussi ce mot extraordinaire. Elles disent, nous faisons silence parce que Dieu ne parle pas très fort. Et pour pouvoir l'entendre, il faut un peu se taire. Alors, j'avais emmené des élèves voir ces carmélites pour travailler un peu avec elles, etc. Et c'est vrai que pour des jeunes gens de 17 ans, c'est très angoissant tout ça, et ils voyaient ça comme une sorte de manque. C'est-à-dire, il leur manque la parole, il leur manque les voyages, il leur manque la famille, il leur manque, etc., les enfants. Ils s'inquiétaient beaucoup de cette vie qui leur paraissait réduite. Et elle leur répondait que non, justement, leur vie est beaucoup plus intense et beaucoup plus forte et beaucoup plus grande, et qu'elles sont venues là pour vivre plus fort.
Page 130, concernant le verbe toucher, vous écrivez « Le lieu de Dieu n'est pas ce ciel trop haut qui accueille les nuages, pas ce ciel si noir qui accueille les étoiles, le lieu de Dieu est le corps de l'homme, il n'est pas d'autre lieu où il puisse être perçu, connu ou reconnu. Mais que serions-nous sans notre corps, que vous appelez, Alexis Gianni, mon frère, le corps ?
Alors le corps, c'est le lieu qui est le nôtre. C'est la petite part de l'univers qui est à nous, ce sont nos propriétés. Et nous n'avons rien d'autre, nous ne sommes que ça, nous ne sommes que là. Et ce corps nous permet beaucoup de choses, et il faut avoir un rapport amical avec son corps. Il faut en prendre soin si on veut qu'il nous permette de sentir et de vivre et d'entendre, etc. C'est comme si le corps était une sorte de finalement d'antenne générale qui permette de percevoir énormément de choses. Il n'y a pas d'homme sans corps. C'est pas possible. Il n'y a pas de vie sans corps, ce n'est pas possible. Et finalement, si Dieu est cette vitalité que l'on perçoit, il n'a pas d'autre lieu que le corps humain. Les cieux, c'est loin. Par contre, le corps de l'homme, le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme, voilà la grande chose de l'univers. Il y a toute une tradition théologique, mystique, qui pose la question de savoir pourquoi Dieu a créé l'homme, et qui répond en disant que Dieu a créé l'homme pour être connu de lui. Finalement, le seul lieu de Dieu est le corps de l'homme, et le seul lieu de la présence de l'homme est le présent. Et le présent, c'est ce moment très infime qu'il est assez difficile de percevoir, puisque on est complètement coincé entre un passé que l'on regrette déjà et un avenir que, dont on a déjà peur. Et finalement, ce présent et ce moment d'équilibre, ce moment d'équilibre miraculeux. Et on sait bien que quand on arrive à maintenir un équilibre, ça crée un bonheur infini.
Un bonheur infini. Et donc, au terme de cet entretien, que direz-vous à Dieu, Alexis Génie, lorsque vous serez face à lui? Est-ce que déjà vous dites, tiens, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à cette présence, puisque vous avez dit qu'il y avait cette étincelle divine en chacun de nous, et que, en toute liberté, c'est comme un amour, nous pouvons l'accueillir, ou le repousser. Mais qui pourrait repousser un amour infini?
Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je lui dirais, me voilà.
Et quoi de mieux au terme de cet entretien avec vous de laisser aux auditeurs un extrait de votre livre avec cette citation « Ce qui est là et d'une façon très intense, c'est la vie avant la mort, celle où je suis, celle où nous sommes ensemble, celle qui me porte, m'imprègne et m'anime. Cette vie-là a valeur d'éternité. » Merci beaucoup Alexis Génie pour votre participation à Tendance Confidence au cœur de votre livre « Son visage et le tien » paru chez Albin Michel.
Merci, au revoir.
Podcast by Tendance Ouest.